Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Alternante FM. Nous nous retrouvons pour un troisième numéro de l'émission de la classe des CE1 des Buzardières de Saint-Herblain qu'ils consacrent à leur ville, Saint-Herblain donc, qu'ils explorent à travers différents sujets. Après avoir exploré la ville et son urbanisation dans le temps, place à la mairie et à son rôle dans la ville, son évolution, son histoire et les projets qu'elle développe pour ses habitants. Maxime, est-ce que tu peux nous présenter cette nouvelle émission ?
Pour cette nouvelle émission, toujours sur le thème de notre ville Saint-Herblain, nous nous sommes posé des questions sur la place de la mairie dans la ville. Entre le rôle de la mairie, l'organisation de la ville, les questions ont été nombreuses. Pour y répondre, nous recevons deux invités aujourd'hui, Sarah Tendron et Evelyne Rowe, élues à la mairie.
Ingrid, je te laisse nous expliquer le choix de ces deux invités.
Bonjour, je connais Evelyne puisqu'elle faisait partie des conseils d'école et donc j'ai eu l'idée de l'inviter en me disant qu'elle serait une bonne interlocutrice également pour pouvoir trouver les référents disponibles pour pouvoir répondre à nos questions.
Merci. Donc, Evelyne Rowe, donc vous êtes conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et Sarah Tendron, élue à la mairie, adjointe au bourg et donc référente au conseil d'école. Et donc, je vous laisse avec notre premier groupe de journalistes en herbe, donc Claral, Chaïma et Damien. Claral, je te laisse poser ta première question.
Comment le dernier roi a été enlevé ?
Bonjour, merci de cette invitation déjà dans un premier temps. La question, c'est une question plus d'histoire. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cette partie au programme à votre niveau, mais non, je pense que ça sera un petit peu plus tard, CM1, CM2 il me semble. Ce que je peux te dire par rapport à cette question, c'est que tout s'est passé au moment de la Révolution française, au XVIIIe siècle, où on était dans un siècle des Lumières. Il y a de nombreux penseurs qui critiquaient la monarchie en place. Il condamnait les privilèges de la noblesse et du clergé. Eux, ce qu'ils souhaitaient, c'était une société plus juste, dans laquelle les hommes seraient tous égaux et libres en droit. Cette idée-là, elle a fait son chemin au niveau du peuple français. Et en 1789, ils ont rédigé ce qu'on appelle des cahiers de doléances, en fait, dans lesquels ils ont expliqué leur situation de pauvreté, de famine. L'impôt était très dur pour eux. Des états généraux se sont réunis pour trouver une solution avec le roi, mais en fait, aucune solution n'a été trouvée. Le roi est parti, il a fui, il a quitté Paris à cette époque-là, mais il a été rattrapé, il a été emprisonné, et la République a été proclamée le 22 septembre 1789. Donc là, le roi, après, tu le verras aussi, il a été remplacé par un président de la République au niveau de l'État français.
Alors, beaucoup de questions sur et autour de la mairie. Claral, je te laisse poser la seconde question.
À quoi sert la mairie ?
Oui, bonjour à toutes et à tous. Pour répondre à ta question, alors, la ville est... Elle est responsable de la construction de la ville courante dans les écoles, de l'entretien des parcs, de l'organisation d'activités culturelles et sportives, ou encore du soutien aux habitants qui ont des difficultés.
Claral, je te laisse continuer.
Comment s'appelle le maire ? C'est quoi son travail ? Est-ce que le maire travaille après le couvre-feu ?
Alors tout d'abord, le maire s'appelle Monsieur Bertrand Affilé. Et il représente la commune et il est responsable de l'organisation des services publics que la ville propose à ses habitants. Et oui, il travaille après le couvre-feu.
On poursuit avec Chaïma.
Comment la mairie a été construite et par qui ?
Alors, la construction du bâtiment originel qui a beaucoup changé au fil du temps, qui ressemble plus tellement à ce que l'on voit aujourd'hui en mairie, c'était une construction en pierre de granit et d'ardoise. Et cette construction a été décidée par le conseil municipal du 2 mai 1937, qui était alors présidé par le maire Jules de la Gournerie. Alors, Gournerie, ça vous dit peut-être quelque chose, puisque c'est... un parc, voilà, je vois Maxime lever la main. C'est le nom qui a été donné à un parc sur Saint-Herblain.
Damien ?
Est-ce que c'est le maire qui s'occupe d'organiser la ville, les maisons, les rues, les commerces, les gymnases, Les parcs, si oui, comment ?
Alors, la mairie ne s'occupe pas de tout toute seule. Il y a des missions qui sont confiées à Nantes Métropole. Alors, Nantes Métropole va s'occuper des espaces publics, de la voirie, de la propreté, de l'éclairage public, des déchets, de l'aménagement dit urbain. La mairie, quant à elle, va prendre soin de certains espaces verts, des écoles maternelles et primaires, comme la vôtre. Elle va aussi donner des autorisations de construction des maisons ou des bâtiments. Et puis son rôle, ça va être surtout de vérifier que ces constructions, elles soient bien conformes aux règles que la ville impose par rapport aux constructions. Alors, on parlait tout à l'heure d'un gymnase. Par exemple, pour construire un gymnase, on va regarder dans l'environnement où c'est le plus opportun, où c'est le mieux de construire ce bâtiment, ce gymnase, pour répondre aux besoins des habitants, parce que c'est bien là le vrai enjeu. Et puis, on va voter un budget. Une fois que le budget il est voté par les élus de la ville, en conseil municipal, on va faire appel à plusieurs entreprises. Et puis, une fois que les entreprises auront été choisies, elles pourront faire les travaux, là, par exemple, du gymnase.
Claral avait d'autres questions.
Qu'est-ce qu'il y a comme métier dans une mairie ?
Alors, comme métier dans une mairie, il y a toutes sortes de métiers. Il y a les animateurs de périscolaires, les jardiniers, la police municipale, les agents administratifs, les maçons, des électriciens. Et on ne sait pas trop pourquoi... la question de demander s'il y avait des métiers difficiles, tous les métiers sont plus ou moins difficiles. Voilà. Mais bon, ils participent à la ville. Voilà.
Chaïma, tu as une grande question.
Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'installer une piscine ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas gardé le château ?
Alors, pour la piscine, je vais répondre d'une façon un petit peu plus globale par rapport à l'emplacement de la piscine. Parce que vous parlez du château, donc on parle du château de la Bourgognière. Donc on va refaire un petit point peut-être aussi d'histoire pour bien comprendre l'implantation et de quoi on parle par rapport à ce château. Donc il a été construit en 1618 par Louise Blanchet et Mercure Michel. Et puis après, il y a eu une succession de propriétaires. Il y a eu plein de propriétaires. Et il y a la Révolution française, dont on en a parlé tout à l'heure avec l'abolition de la monarchie. Et là, il y a eu des grands bouleversements. Le château, en fait, il avait été décidé de le vendre comme bien national. Sauf que son ancienne propriétaire, qui était donc Marie-Angélique Lelon, elle parvient à garder le domaine après la Révolution et elle va épouser un certain Jean-Baptiste Guiton en 1798. Et ce Jean-Baptiste Guiton, il devient maire de Saint-Herblain en novembre 1807. Donc c'est assez rigolo, quoi, l'histoire de Saint-Herblain, comment ça s'est fait. Et puis ce bâtiment, il a été... en 1919, acheté par les Forges de Bassindre. Et puis à partir de 45, tu vois, l'histoire est assez longue, hein. À partir de 45, le domaine de la Bourgognière, il faut l'imaginer beaucoup plus étendu que le simple parc que vous connaissez aujourd'hui. Il a été divisé en plusieurs parcelles et on a construit dessus. Donc peut-être que l'école faisait partie du domaine de la Bourgognière. Et puis toutes les maisons aussi ont été construites dessus. Alors le château, il a été réhabilité pour la maison de retraite de Saint-Herblain. Et puis le parc a été préservé. Et après, sur ce parc, effectivement, il a été décidé d'y installer la piscine. Alors, semble-t-il, à l'époque, c'est parce que ça semblait être peut-être le meilleur endroit pour que les habitants puissent profiter d'avoir une piscine municipale dans cet environnement qui est boisé et qui est très agréable pour y implanter une piscine.
Maxime, tu avais une question.
Nous avons un cahier de Saint-Herblain aussi sur quoi nous pouvons travailler. Nous avons beaucoup de plans de la France et de Saint-Herblain. Et au plus souvent, on prenait des cartes et on regardait, on se rapprochait de plus en plus de Saint-Herblain. Et quand on regardait juste sur Saint-Herblain, le PAO filmé par un drone, et ben on voyait le parc avant et le parc après. Et le parc avant, on voyait qu'il était beaucoup plus grand qu'après.
Tout à fait. C'est après, tout a été, comme je le disais, je pense que tout le parc a été un peu démantelé pour créer le quartier, ce quartier où il y a les maisons autour de ce parc de la Bourgognière.
Damien, tu vas nous parler d'argent.
Est-ce que la mairie crée de l'argent Est-ce qu'il y a de l'argent à la mairie? Si oui, d'où vient-elle et à quoi sert-elle?
Alors non, la mairie ne crée pas d'argent à proprement parler. Cette action de créer l'euro, de générer de l'argent, ça se passe au niveau de l'Union européenne. Donc ce n'est pas du tout au niveau de la mairie. La mairie, elle va gérer un budget. Donc dans un budget, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais on a des dépenses. Donc l'argent que l'on dépense, c'est des recettes. L'argent qu'on reçoit forcément pour pouvoir mettre en place ces dépenses. Et ces dépenses, c'est tout ce qui est service public que l'on va proposer aux habitants et les projets que nous allons réaliser pour la ville, pour les habitants. Sur les recettes, donc les recettes, c'est l'argent que l'on va recevoir dans ce budget. Il vient des impôts locaux et il y a une partie de financement de l'État.
Donc les impôts locaux, c'est ce que payez, ce que vos parents payent, ce qu'on paye tous en fait. Ce sont les habitants qui payent pour ensuite avoir des services. Maxime, est-ce que tu veux bien nous présenter le petit morceau de musique qu'on va s'écouter maintenant?
Alors, on va écouter une chanson Kids Unique et qui s'appelle La Tendresse.
Musique.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais les hauts sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment. Besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps nous paraît long. Long, 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 long. Le temps nous paraît long. Dans le feu de la jeunesse, fait des prouesses pour nous éblouir. Mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable, croyé et déçu. Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour jusqu'à la fin des jours.
Retour en classe des CE1 des Buzardières de Saint-Herblain avec leurs deux invités, Evelyne Rouault et Sarah Tendron de la mairie de Saint-Herblain. Autour de la table, donc, nous avons donc, nos nouvelles journalistes, Julia, Célène et Iliana qui ont pris place. Julia, première question.
Est-ce que c'est la mairie qui s'occupe de la bibliothèque?
Alors oui, c'est la mairie qui s'occupe de la bibliothèque. Et on a un nouvel exemple là de bibliothèque qui s'est créée dans le bourg. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller. Ouais, je vois des mains qui se lèvent à l'espace 126. Il y a la nouvelle bibliothèque du bourg donc, qui s'est mise avec la ludothèque de la Haute-Chaussée aussi, où vous alliez peut-être avec vos camarades ou avec la classe. Et du coup, il y a une nouvelle médiathèque qui est à votre disposition au niveau de l'espace 126 dans le bourg.
Julia, tu avais une autre question?
Oui. Est-ce que vous payez les ouvriers qui ont agrandi la bibliothèque du bourg?
Oui, ils ont été payés. Ne t'inquiète pas, tout le monde a été payé, tout s'est bien passé.
Iliana.
Est-ce que avoir un espace de jeu plus grand au parc de la Bourgognière, je trouve qu'il y a un parking qui prend trop de place par rapport à la place réservée aux enfants.
Alors sur effectivement l'espace de jeu de la Bourgognière, il y a un petit espace dans le parc de jeu, alors effectivement qu'on peut trouver peut-être trop petit, on peut éventuellement y réfléchir. Après il y a le Hobbyland aussi qu'il y a derrière, je sais pas si vous allez jouer au foot ou au basket, il y a tout le terrain d'athlée derrière, donc il y a un espace important quand même en termes de jeu. Mais effectivement, hein, j'entends que tu trouves que l'espace dédié au jeu pour les petits est un peu peut-être resserré. L'histoire du parking, le parking, il sert aussi à pouvoir se stationner pour les gens qui viennent de loin, pour justement profiter de cet espace-là. Puis il y a aussi la piscine, qu'il faut les gens puissent se garer aussi pour aller à la piscine. Il y a le collège qui est à côté. Donc tous les espaces de parking, c'est très compliqué en fait de trouver la mesure entre ce dont on a besoin en termes de stationnement pour pouvoir se garer, pour pouvoir avoir accès, et puis les espaces de jeu.
Célène.
Est-ce que c'est la mairie qui décide de construire les écoles ? Comment l'école va devenir ?
Alors oui, c'est la mairie qui, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est la mairie qui s'occupe des bâtiments, en fait, des écoles primaires et maternelles. Donc on va s'occuper de tout ce qui est entretien, mais on va aussi bien regarder quelle est l'évolution des élèves, combien d'élèves il y a dans les quartiers, pour savoir combien de classes doivent être construites dans les écoles, ou même s'il y a un besoin de construire une nouvelle école, parce qu'il y a plus d'élèves, il y a plus d'habitants. Après, si ta question c'est de savoir comment ton école va devenir au Buzardia, parce qu'il va y avoir des travaux effectivement qui vont débuter cet été pour une durée de 14 mois, donc de cet été à l'été prochain, il va y avoir des travaux dans votre école. Alors il y a des travaux qui vont être des travaux d'agrandissement, mais aussi de réaménagement de votre espace. Puis par exemple, vous allez avoir des classes supplémentaires. Il va y avoir un préau aussi qui va être créé. Enfin, il va y avoir plein de nouveaux travaux. Donc, vous allez avoir effectivement une nouvelle école.
Ilias avait une question aussi.
Mais par rapport au parc, je trouve que pour faire un plus grand espace, d'abord, il faut d'abord un peu agrandir le parc. Je trouve un peu pour un peu d'élan de l'air de jeu. Voilà.
Le parc de la Bourgognière, tu dis agrandir le parc en tant que tel, l'espace vert ou agrandir les jeux ?
Et l'espace vert, j'aimerais bien l'agrandir, ouais, pour qu'on fasse un peu plus de jeux.
Alors c'est sûr que l'espace, plus on aura d'espace vert à Saint-Herblain, plus on sera bien. Après Saint-Herblain, il y a déjà beaucoup d'espace vert. Il y a le cours Hermelan, on appelle, on a un gros territoire Saint-Herblain. On a la chance d'avoir beaucoup d'espace vert à Saint-Herblain, d'avoir beaucoup de parcs, d'espaces de jeu. Alors j'entends, hein, forcément t'habites à côté, donc t'aimerais que toi ton espace à côté, ton espace vert soit encore plus grand. Mais c'est toujours le problème d'aménagement urbain. Je crois que vous l'avez vu ça en classe. C'est d'avoir la juste proportion entre les espaces verts et puis les maisons. Parce que si on fait un espace vert plus important, les gens à côté, il y a des maisons, on ne va pas pouvoir tout détruire. Mais j'entends, hein, j'entends ce que tu dis et tu as raison. Les espaces verts, c'est très important dans une ville.
Alors justement, Iliana avait une question par rapport aux jeux.
Est-ce que c'est la ville qui décide les jeux pour les enfants ? Est-ce que les enfants réfléchissent aussi ?
Alors la ville peut décider d'un espace quand ça peut le permettre de créer des aires de jeu. Alors par exemple dans le bourg, il va y avoir un nouveau Hobbyland à l'espace 126. Hobbyland, c'est le basket, ça peut être du football, ça peut être c'est plein de jeux. En fait, alors les demandes des enfants peuvent être remontées dans le cadre des conseils d'école. Alors un conseil d'école, c'est les parents, les institutrices qui peuvent parler de ça, quoi, dans chacune des réunions. Alors il y a un élu, dont Sarah, qui en fait partie, alors qu'il faut remonter les souhaits et observations pour les étudier. Voilà.
Julia ?
Est-ce qu'on pourrait réfléchir à un parking privé juste pour l'école, car les habitants des immeubles se garent sur ce parking. On est obligé de se garer sur les trottoirs et on gêne les gens qui sont à pied. Et même parfois, on porte les poussettes parce qu'on ne peut plus passer. Ou sinon, on se gare loin et on vient à pied. Et les gens s'énervent. Les policiers sont obligés de venir.
Cette question-là, elle est importante et compliquée. La construction d'un parking privé, on ne peut pas faire un parking privé. En tout cas, ce n'est pas ce qui est dans les écoles. On ne construit pas de parking privé. Les parkings privés, ils sont réservés aux personnes qui travaillent dans l'école. Ils ont leur place de parking privé. Devant l'école, effectivement, c'est un espace public. Donc, par définition, tout le monde peut s'y garer. Les gens dont tu parles qui habitent les immeubles, effectivement, s'y garent. C'est vrai que... On peut essayer de se garer un petit peu plus loin, venir à pied, mais c'est quelque chose sur lequel on va réfléchir. Hein. C'est une vraie, vraie bonne question. Mais la problématique du stationnement en ville, c'est vraiment compliqué. Maintenant, ce qui est important pour vous, c'est la sécurité, c'est de pouvoir cheminer, aller à l'école sur les trottoirs sans que personne ne puisse s'y garer. Et il ne faut pas se garer sur les trottoirs pour une question de sécurité, parce qu'effectivement, après, vous êtes obligé de passer par la route et ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que la police vient vérifier tout ça le matin et pour dire aux gens de ne pas se garer sur les trottoirs, parce que c'est interdit. Mais oui, ta question, elle est pertinente et on va regarder.
Célène ?
Est-ce que la mairie pourrait insister les gens à se déplacer à pied plutôt qu'en voiture? Il y a des gens qui prennent la voiture alors qu'ils habitent à côté du parc.
Et ben voilà, on en revient aussi un petit peu à la question juste d'avant, c'est privilégier les modes doux, on appelle ça, les modes à pied, à vélo, et de faire en sorte que quand on puisse se déplacer à pied, c'est de venir à pied plutôt qu'en voiture, parce que on sait qu'on va trouver un problème de stationnement à l'arrivée. Ce qu'il faut savoir qu'à Saint-Herblain, on essaye aussi de faire en sorte que la circulation soit dite apaisée. Ce mot-là, ça veut dire qu'on réduise les voitures en termes de vitesse de circulation et qu'on essaye de favoriser au maximum que les gens viennent à pied ou utilisent le vélo. Mais pour ça, il faut forcément que les routes suivent et que ce soit suffisamment sécurisé pour que les vélos puissent circuler. On peut pas contraindre, la ville peut pas contraindre en fait quelqu'un à utiliser un mode de transport plutôt qu'un autre, mais on peut faire en sorte au niveau de l'organisation que les modes doux soient favorisés.
Paul avait une question.
Mais le relais qui est dans le bourg près du parc, il y a un grand espace bitumé autour et du coup, on ne pourra pas agrandir le parking.
Où ça, tu dis ?
Le relais près du parc.
Alors là, dans cette rue-là, il va y avoir des places de parking qui sont prévues. C'est la rue de la gare et effectivement, alors on appelle ça des poches de stationnement. Hein. C'est pas... Ce mot-là veut dire qu'effectivement, on a des emplacements sur le trottoir qui peuvent être dédiés à des places de parking supplémentaires. Là, pour le coup, on ne pourra pas agrandir le parc parce que si on agrandit le parc là, ça fera une sorte de petite verrue dans cet espace-là. Mais on va faire en sorte de créer des places de parking là justement pour répondre à des besoins de stationnement pour vous autour de l'école.
Et Iliès avait une question.
Mais est-ce que c'est le président qui nous envoie les constructions de Saint-Herblain ?
Alors le président de la République, tu dis ?
Oui.
Qui nous envoie les constructions, qui décide des constructions de Saint-Herblain ?
Oui.
Alors pour les constructions de Saint-Herblain, c'est un peu plus compliqué parce que si tu veux, c'est pareil, je vais employer un mot, c'est le plan local d'urbanisme métropolitain. En fait, c'est toutes les règles qui sont inscrites et qu'on décide de construire les bâtiments. Quand quelqu'un décide de construire un bâtiment, ce n'est pas forcément le président de la République, c'est les habitants ou c'est la mairie pour des projets qui peuvent être proposés par des habitants.
Et pour terminer, quels sont le prochain grand projet de la ville de Saint-Herblain en termes d'évolution, en termes de construction ?
Alors déjà, il y a la réhabilitation. Là, je vais vous parler au niveau du bourg, que moi, je maîtrise plus.
Oui, on est dans le bourg.
Là, il va y avoir le réaménagement donc, de l'école des Buzardières, qui est un gros projet, puisque du coup, il va y avoir plus d'élèves qui vont être accueillis. Il va y avoir des rénovations sur des gymnases. On a bien sûr l'espace autour de l'église de l'abbé Chérel, tout ce qu'on requalification du centre-bourg, on appelle ça, où là, il y a vraiment un gros réaménagement qui va être fait avec une autre vision de la ville que l'on veut apporter. Et puis, comme je disais aussi, c'est aller vers la ville apaisée et faire en sorte que les modes de circulation soient sur des modes doux. Il va y avoir aussi la rue Radigua qui va être repensée en ce sens-là. Donc voilà, c'est vraiment des projets sur du vivre ensemble et de faire ensemble, de faire cohabiter tous ces modes de transport aussi et de prendre soin de notre centre-bourg.
Ok, merci beaucoup Sarah Tendron, Evelyne Rowe, merci beaucoup
d'avoir
répondu à l'invitation d'Ingrid et sa classe.
Merci pour votre invitation, merci.
Merci
aux enfants.
À Ingrid, l'institutrice de la classe donc des CE1 et à ses élèves, Julien a assuré la technique de l'émission. Vous pourrez la réécouter en podcast, donc en plus des ondes, sur la page dédiée à cet atelier aux Buzardières, donc via notre site internet www.alternante.net. Bye bye.